Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Avez-vous jamais entendu parler des Juifs messianiques ? Les Juifs messianiques, ce sont des Juifs dits illuminés qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Des hommes et des femmes, à cheval entre deux cultures religieuses, si l'on peut dire, qui seraient aujourd'hui quelques centaines de milliers dans le monde. Des hommes et des femmes qui rappellent à l'Église ses racines juives et questionnent le peuple juif. Rencontre. Voilà, ce matin, donc, cette émission Vivante Église. Qui sont les Juifs messianiques ? Donc, avec en plateau Marc Kinzer, qui donc est théologien, rabbin, membre donc d'une communauté juive messianique qui est de passage en France pour une tournée, d'une certaine manière, qui commence à Toulouse, où il va donner ce soir une conférence chez les Dominicains de Toulouse, donc à 20h30, salle Albert le Grand, au couvent des Dominicains. Bonjour. Oh, hello.
Hello, it is a pleasure to be here.
Voilà, c'est un plaisir d'être ici. Alors, on vous donnera la parole, mais de manière un petit peu marginale, puisque on ne peut pas traduire pendant toute l'émission. En tout cas, on est très heureux que vous soyez là en plateau. Et nous sommes aussi donc avec le père Jean-Miguel Garrigue, dominicain du couvent de Toulouse et théologien. Bonjour, mon père.
Bonjour.
Et il faut donc donner le titre de cet ouvrage de Marc Kinzer, Scrutant son propre mystère, Nostra Aetate, le peuple juif et l'identité de l'Église. Alors, il faut dire... mais il ne faut pas que ça décourage certains que c'est un théologien de renommée internationale, enfin de haut vol, tout comme vous, père Jean-Miguel Garrigue, vous avez la gentillesse de nous aider à, comment dire, à vous mettre à niveau pour nous faire découvrir qui sont ces Juifs messianiques. Alors, beaucoup de choses à voir pendant cette émission. On va commencer peut-être tout simplement par dire un mot de ce que sont ces Juifs dits illuminés, Juifs messianiques, au regard peut-être rapidement de votre personne ou de votre parcours, et puis on y reviendra en parlant des Juifs messianiques peut-être de manière plus générale. Comment vous introduiriez votre invité de ce jour, puisque c'est aujourd'hui autant votre invité que le mien?
Personnellement, ou comme, je veux dire, dans sa personne ou dans
le... Qu'est-ce que c'est qu'un juif messianique, peut-être, et dire lui comment il est devenu juif messianique?
Alors, le juif messianique, ce sont des juifs qui sont pleinement juifs et qui veulent rester, et qui en même temps ont accueilli dans la foi Jésus, à la fois comme Messie d'Israël, comme Fils de Dieu et comme Sauveur du monde. C'est-à-dire qu'ils ont une foi illuminée par la Nouvelle Alliance, par le Nouveau Testament, qu'ils acceptent intégralement. Et donc, ce sont nos frères dans la foi. Nous partageons la même foi en Jésus.
Alors, il faut peut-être dire, pardon, hein, pour le grand public, que ce que ça a d'extraordinaire, c'est-à-dire que les Juifs attendent toujours le Messie.
Oui.
Et l'immense majorité des Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme
bien
Messie,
sûr,
évidemment.
Bien sûr. Là, ils reconnaissent Jésus comme Messie, mais pas seulement comme Messie, comme étant un homme providentiel, mais Jésus comme Fils de Dieu et comme Sauveur du monde. Donc ça veut dire qu'ils accueillent pleinement la bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle du mystère de l'incarnation et de la rédemption.
Alors peut-être on va y revenir, hein, sur votre parcours. Juste dans cet ouvrage, Marc Kinzer donc détaille un petit peu son parcours de vie. C'est surtout donc un ouvrage théologique, de dialogue en fait entre catholiques et juifs, pour essayer de voir lui qui est en fait entre guillemets à mi-chemin en fait, hein, comment son expérience ou ce que les juifs messianiques peuvent apporter quelque part.
Peut-être qu'on peut dire un mot sur son propre itinéraire.
Voilà, comment il lui-même est devenu juif messianique.
Oui,
en fait.
Il était d'une famille juive pratiquante et il a connu le renouveau charismatique catholique dans ses années d'études et à travers une communauté catholique charismatique. Et il a découvert Jésus ainsi et il est entré dans la foi, mais sans jamais renoncer à son judaïsme. Et donc, il a vécu dans cette communauté, qui était une communauté catholique, mais qui accueillait d'autres confessions, protestants en général.
Quand vous dites il vivait
dedans. Il a vécu pendant 22 ans dans cette communauté, donc il a une connaissance intime de la vie catholique, aussi bien dans la vie de prière, dans, le, dans, les, dans la théologie aussi. Il a lu beaucoup et très, très profondément les grands auteurs théologiens catholiques.
Peut-être, alors, au risque de, enfin, sans vouloir choquer, hein, c'est pas du tout le propos de cette émission, parce qu'il y a peut-être des juifs qui nous écoutent, sait-on jamais. Il faut dire peut-être ce que ça a de... Est-ce que ça a quelque chose de scandaleux, en fait, pour un juif, de reconnaître Jésus comme le Messie? Et pour lui, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être? Est-ce que ses parents, est-ce que sa communauté ont été choqués de ce, comment dire, de ce saut dans la reconnaissance de Jésus
Mark,
comme le Messie?
Mark, this is a question we are going to... address you.
C'est une question que nous allons vous adresser.
Your family was shocked when
comment réagit votre
said
famille?
That you
était-elle
were,
choquée par votre illumination?
Yes. my father was a very was a leader, a lay leader of a synagogue.
Mon père était un leader d'une synagogue.
He was very surprised.
Il était très surpris.
But my mother actually was more offended.
Mais ma mère était encore plus offensée ou blessée.
She was less knowledgeable about Judaism than my father.
Elle avait moins de connaissances profondes du judaïsme que son père.
But she reacted out of her heart.
Mais elle a réagi avec son cœur.
Ouais. But through a number of different events, within 2 or 3 months, my mother had a dream and encountered Jesus.
Voilà, mais en fait, au bout de quelques semaines ou mois, ma mère a eu comme un songe, en fait, et elle a rencontré Jésus.
Oui.
Elle s'est convertie, en tout cas, à la foi chrétienne. Alors, on y reviendra. Pardon, hein, mais comme vous parlez anglais, c'est vrai que peut pas passer toute l'émission sur votre chemin de vie. En tout cas, on invite peut-être tout simplement les gens à aller à la conférence ce soir. On redonnera toutes les informations au fur et à mesure.
Et puis le livre a tout un chapitre sur.
Et voilà, et
le livre n'est pas que théologique, mais il y a aussi tout un chapitre sur son itinéraire.
Alors, ces juifs messianiques, quand est-ce que il y a eu, j'ai envie de dire, la réponse est dans la question, parce qu'en fait, les premiers apôtres étaient des juifs illuminés d'une certaine manière.
Bien sûr.
Ça, vous pourrez peut-être davantage expliquer ça, mais est-ce qu'on retrouve une trace dans toute l'histoire, en fait, de juifs dits illuminés, ou est-ce que c'est un phénomène assez récent, Père Jean-Miguel Garry?
Alors, par la génération apostolique, l'Église est juive. Elle a été juive avant d'accueillir progressivement les premiers croyants de la gentilité, c'est-à-dire qui venaient du paganisme. C'est donc toutes les premières communautés de Jérusalem et de la terre d'Israël étaient des communautés juives. L'Église a été juive avant d'être gentille, avant d'être...
Alors juste, il faut préciser, les gentils, c'est le nom qu'on donne en fait dans les Écritures aux non-juifs.
Voilà. Voilà, à ceux qui sont hors de l'alliance et de la promesse, qui viennent donc en gros du paganisme. Et ça a été le cas ainsi. Après, évidemment, très rapidement, dès le deuxième siècle, l'afflux d'une multitude de gentils dans l'Église a fait que l'Église a progressivement un peu oublié cet enracinement dans le reste d'Israël, car ces juifs qui avaient cru en Jésus, qui étaient quand même des milliers, représentaient en quelque sorte le peuple d'Israël, même si les autorités et la grande masse du peuple n'avaient pas suivi, mais néanmoins, dans leur vision, celle de saint Paul, ils étaient le reste d'Israël, c'est-à-dire la partie que Dieu avait choisie pour porter la lumière aux nations. Et donc, ça s'est perdu. Les judéo-chrétiens ont été marginalisés dans la vie de l'Église et ont fini par disparaître. Et après, il y a eu toujours des juifs qui sont devenus chrétiens, bien sûr, mais ça se traduisait par le fait que dans la mentalité générale de tous ces siècles de chrétienté, en devenant chrétien par le baptême, on cessait d'être juif, en quelque sorte. On était, de même qu'on cessait d'être païen quand on venait, on était un gentil qui devenait chrétien, on a assimilé en quelque sorte cela, et donc on cessait d'être juif et on s'assimilait. Et donc ces chrétiens, et ça a duré jusqu'au XXe siècle, c'est au 19e, on commence à voir même des gens qui sont des personnes très vénérables dans l'Église catholique. Je pense aux frères Ratisbonne, aux fondateurs des Spiritains, dont le nom ne me vient pas maintenant, mais Liebermann. Enfin, des gens qui sont des vénérables ou des bienheureux. Le père Cohen, des Carmes, etc., qui, eux, ont commencé à avoir une conscience du judaïsme. C'est encore plus fort dans les églises protestantes, à la même époque. Ils commencent à s'appeler des Hebrew Christians, des Hébreux chrétiens. Et c'est surtout dans les années 60 qu'il y a eu vraiment... On est passé d'une conception simplement de... chrétiens hébreux ou chrétiens ou catholiques juifs catholiques a une conception plus autonome où des juifs ont voulu vivre totalement leur foi au Christ de l'intérieur de la vie juive, même si c'était très difficile de se faire accepter par les autres juifs, bien sûr.
Alors comment est-ce qu'on peut expliquer pour utiliser un mot trivial, ce boom d'une certaine manière des juifs messianiques autour des années 60? J'avais cru en comprendre que c'était un des côtés positifs de 68, c'est qu'il y avait une telle liberté en fait sur les campus et autres que certains se sont autorisés en fait à s'intéresser à la figure de Jésus.
Ça a peut-être joué comme un conditionnement, comme un contexte, mais je pense qu'il y a des raisons, je dirais alors beaucoup plus profondes, si on les prend on essaye de sonder un peu les desseins divins. Je dirais ceci: pendant tous les siècles de chrétienté, hein, que ça commence au IVe siècle avec la conversion de Constantin, jusqu'à peu près à la fin de la Révolution française, si vous voulez, à l'émancipation, l'Église a essayé de convertir les Juifs, et souvent par des moyens qu'elle réprouve elle-même aujourd'hui, pour lesquels elle a demandé pardon. Contrainte, pression, persécution. Et ça a été le moment où, après la Shoah, les chrétiens se sont rendus compte que, d'une certaine manière, cet anti-judaïsme avait préparé un peu le terrain de l'antisémitisme, qu'il y a eu les premiers actes de repentance, etc., qu'il y a eu le Concile Vatican II, que l'Église a renoncé à vouloir, d'une certaine manière, assimiler les Juifs d'une manière radicale comme elle l'avait fait, que Dieu a donné des grâces incontestablement, parce que souvent c'est d'une manière très charismatique que les Juifs ont découvert Jésus. Parfois parce qu'on leur a passé une Bible chrétienne avec le Nouveau Testament, et d'autres fois parce qu'il y a eu un songe, il y a eu une illumination. C'est très mystérieux. Alors, je ne sais pas si on peut dire tellement plus, mais he was asking me about what were the reasons of this movement.
Pourquoi
of faith
dans les années 60 il y a eu une telle explosion de juifs messianiques?
This explosion, how?
Yes. Well, I think there was actually among many Jews in that period time.
Je pense qu'il y avait chez de nombreux juifs à cette époque.
A reinvigoration of Jewish identity.
Une espèce de,
coming
de reprise de conscience de l'identité juive.
Yeah. And so for young Jews who were even in families that were Hebrew Christian, they started to identify more strongly as Jews.
Donc chez de nombreux,
même des jeunes juifs qui étaient dans des familles de convertis, mais assez assimilés, ont repris conscience de leur judaïté.
But also, what took place in the 1960s and 70s was something called the Jesus Movement.
Il y a eu, pendant les années 60 et 70 aussi, ce qu'on a appelé le mouvement de Jesus Movement.
Alors, c'est quoi ça?
C'est un mouvement.
Yeah.
culturelle plus large, en particulier aux États-Unis, mais qui a touché aussi l'Europe à travers toutes les différents aspects de gospel, de Jesus Superstar. Jésus a été à la mode.
And thousands of young people.
Et des milliers de jeunes.
Coming to believe in Jesus outside of the normal church context.
Se sont mis à croire en Jésus en dehors des églises normales.
Alors,
à quoi croient ces juifs, en fait, ces juifs dits illuminés, c'est-à-dire donc ils reconnaissent Jésus comme le Messie?
Ils croient à l'ensemble de la révélation telle que nous la recevons, c'est-à-dire évidemment à toute la Bible hébraïque et aussi au Nouveau Testament, à la bonne nouvelle, à l'Évangile. Ils le croient intégralement comme
tout
nous le croyons. Nous le croyons, ils ont une foi fervente en Jésus.
Alors, la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est, ou peut-être que se posent les auditeurs, c'est pourquoi est-ce que ces Juifs qui reconnaissent Jésus dans ces cas-là comme le Messie ne deviennent pas en fait catholiques? Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans des églises chrétiennes?
Ou dans une église chrétienne. Je pense que je peux répondre à la place de Marc parce que c'est une question qu'on leur a posée beaucoup dans notre groupe. C'est tout simplement parce que l'église, aujourd'hui encore, ne respire pas de ses deux poumons. Vous voyez l'image qu'avait donnée Jean-Paul II, et lui l'appliquait à la tradition orientale, à la tradition occidentale.
En fait, il y a trois poumons. C'est
mais
ça,
c'est pas qu'il y a trois poumons, c'est qu'il y a la distinction Orient-Occident est une distinction secondaire. La première distinction que porte l'Église, dans les écrits même du Nouveau Testament, c'est qu'elle est la charnière et l'unité des Juifs et des Gentils. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié dans notre ecclésiologie et tout le livre de Marc.
C'est-à-dire, vous pouvez réexpliquer ça?
Et les Juifs et les Gentils, ben, c'est ceux qui viennent de la circoncision, de la synagogue, et ceux qui viennent de la gentilité, c'est-à-dire
des non-croyants.
De non-croyants ou religion, autre religion païenne, etc.
Et l'Église est à la jonction des deux.
Elle unit, elle fait dans le corps du Christ, il y a les Juifs et les Gentils. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié et qui est très présent dans les épîtres de Paul, etc. Et Paul veut maintenir la distinction, y compris dans la foi en Jésus, même si c'est la même foi, si c'est le même salut, si c'est le même baptême. Mais néanmoins, il continue à parler. En nous et en vous, il reste une distinction parce qu'il y a une manière d'être croyant en Jésus quand on est juif qui n'est pas tout à fait la même, même si c'est la même foi, mais la modalité d'exprimer cette foi ne sera pas la même que celle de quelqu'un qui vient de la gentilité.
Voilà, on va faire une première pause musicale. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Marc Kinzer, Scrutant son propre mystère, aux éditions Paroles et Silences, qui est donc ce soir à 20h30, salle Albert Legrand, chez les Dominicains de Toulouse. En tout cas, on les remercie et on remercie le Père Garrigue. On le remercie de sa présence. On a de la chance.
Emmanuel Pella.
Cette émission ce matin, donc, sur les juifs messianiques. Qui sont les juifs messianiques? Ces juifs, donc, dits illuminés, qui ont reconnu Jésus comme le Messie, comme leur sauveur. Et nous sommes donc ce matin, si vous nous prenez en cours de route, avec Mark Kinzer, qui donc lui-même est un rabbin d'une communauté juive messianique aux États-Unis, dans le Michigan, théologien de passage en France pour une tournée autour de son livre Scrutant son propre mystère aux éditions Parole et Silence, et qui donne une conférence ce soir chez les Dominicains à Toulouse, et avec le père Jean-Miguel Garrigue, dominicain du couvent de Toulouse et théologien. Alors, le propos de cette émission est aussi donc d'essayer de montrer quelle est la relation entre l'Église et les Juifs. Et il y a donc un texte qu'il faut citer, qui est peut-être très connu de certains, mais moins connu du grand public, qui est un texte fondamental, en fait, dans cette histoire de ce dialogue, on peut dire, qui est donc Nostra Aetate, texte donc du Concile Vatican II. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il a de, je ne sais pas si on peut dire révolutionnaire, mais en tout cas, quelle a été sa nouveauté et quel était, si vous deviez résumer son propos avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, Père Jean-Miguel Garrigue?
Bien, je pense que ce n'est pas par hasard que Mark Kinzer a choisi cette expression de Nostra Aetate. C'est que, en scrutant son propre mystère, l'Église découvre son lien avec le peuple d'Abraham, etc. Scrutant son propre mystère, le pape Jean-Paul II l'a dit sous une autre forme, peut-être plus parlante pour des catholiques, le judaïsme n'est pas quelque chose d'extrinsèque à nous, disait Jean-Paul II, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous. C'est notre racine, mais non pas comme une racine qui aurait été simplement, vous voyez, une racine, ça demeure. Ce n'est pas comme un échafaudage que l'on retire une fois que le bâtiment est fait. Certains catholiques pensent à l'Ancien Testament comme une sorte d'échafaudage qui a permis la venue de Jésus, l'incarnation, et donc, je dirais, le vrai bâtiment qui est le Nouveau Testament, l'Église. Et si c'était ainsi, il ne faudrait même plus lire l'Ancien Testament. Certains, comme l'hérétique Marcion au IIe siècle, l'avaient déjà dit. La racine, c'est différent. La racine nous porte, nous dit saint Paul. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Donc, la racine, c'est ça que Jean-Paul II a dit aussi quand il a dit « Vous êtes nos frères aînés ». Et Benoît XVI a même ajouté « Vous êtes nos pères ». Il y a une certaine paternité. Donc, ça veut dire que, vous voyez, c'est quelque chose qui est intrinsèque à nous. Et c'est si vrai que dans l'organigramme des congrégations romaines au Vatican, les relations avec les Juifs n'appartiennent pas au dialogue interreligieux, mais au Conseil pour l'unité des chrétiens. Il y a une sous-section dans le Conseil pour l'unité des chrétiens pour les relations avec le judaïsme. Parce que le judaïsme n'est pas quelque chose d'extrinsèque à nous, comme peuvent être d'autres religions avec lesquelles on essaye d'avoir de bons rapports et de compréhension, de respect, etc. Bon, mais c'est quelque chose d'extérieur. Le judaïsme est quelque chose d'intérieur. Alors c'est vrai que les juifs, et s'il y en a qui m'écoutent, tiennent beaucoup à ce que nous ne les absorbions pas, que nous les respections dans toute la réalité d'un ensemble institutionnel et traditionnel qui est celui de la synagogue et aussi de leur présence aujourd'hui en Israël. Et c'est très important, effectivement, de les respecter. Mais nous, de notre point de vue proprement spirituel, comme catholiques, comme chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme autrement comme quelque chose qui nous est intrinsèque.
Voilà, donc j'allais dire que de révélations dans cette émission, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui est largement conscientisé dans le peuple chrétien.
Non.
Je vais citer donc un passage de Nostra Aetate pour faire écho à votre propos. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'Antique Alliance et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils étant donc les non-juifs. Alors il y a autre chose peut-être qui, on va de découverte en découverte ou de révélation en révélation, qui est peu connue et qui est dit aussi aussi dans Nostra Aetate, c'est que les Juifs restent très chers à Dieu et qu'il y a derrière cela l'idée ou la réalité de foi que, en fait, Dieu n'a pas, comment dire, repris son alliance avec les Juifs.
Voilà.
On se souvient, par exemple, pour introduire votre propos, du film La Passion du Christ, où à la fin du film, pour ceux qui l'ont vu, le temple est détruit. Et ça avait choqué un certain nombre d'intellectuels, de théologiens, parce qu'en fait, Dieu ne détruit pas sa première alliance. Dieu ne se reprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas repris son alliance avec les Juifs? Parce que de prime abord, on se dirait, ils n'ont pas reconnu le Messie, ils se sont trompés, tant pis pour eux.
Malheureusement, que la tradition chrétienne l'a compris au IIe siècle, à partir de la deuxième guerre juive. Il y a eu deux guerres juives avec les Romains. Une première en 70 qui a vu la destruction du temple. Entre parenthèses, le temple a été brûlé, et il a été brûlé probablement par les Zélotes, c'est-à-dire par une faction sectaire dans le judaïsme, plus que par les Romains eux-mêmes. Mais bon, il a été détruit. Mais c'est surtout ensuite, il y a eu une seconde guerre en 135, après Jésus-Christ, qui a été terrible, parce que là, les Juifs ont été expulsés de la terre d'Israël. Et cela a duré des siècles. Et les auteurs chrétiens de cette époque ont une tendance à voir cette guerre comme étant la sanction, la punition et même le rejet d'Israël. Et c'est ainsi que s'est développée une théologie que l'on appelle théologie de la substitution, c'est-à-dire que Israël ayant été infidèle à Dieu en ne recevant pas le Messie, a été rejeté et remplacé par une église qui est l'église des nations, qui est l'assemblée des nations, c'est-à-dire des gentils. Et donc, qui deviennent le nouvel Israël, au sens non pas de l'Israël qui entre dans la nouveauté de l'alliance nouvelle et de la bonne nouvelle de la venue du Messie, mais d'un remplacement pur et simple et d'un rejet d'Israël, ce qui est totalement infidèle au texte du Nouveau Testament, mais ça a été ainsi. Et ça a beaucoup pesé. Heureusement, jamais le magistère ne l'a enseigné comme tel, mais c'était une opinion très commune qu'on trouve chez beaucoup de grands auteurs et même de pères de l'Église ou de docteurs catholiques.
Mais alors, si une fois cette précision faite, quelle est l'élection d'Israël, en fait? Quelle est l'élection des Juifs encore aujourd'hui?
Alors, l'élection,
qu'est-ce que ça veut dire
Saint Paul, c'est que Dieu...
Vous parlez même dans votre livre, alors c'est probablement connu dans vos milieux intellectuels, mais d'une vocation qui reste attachée, en fait, au peuple juif. Quelle est-elle dans ces cas-là?
Alors, il y a une vocation, là, il faut distinguer, il y a une vocation du peuple juif comme tel, et puis il y a une vocation particulière des Juifs croyants en Jésus.
Alors ça, on y viendra peut-être après.
Voilà. Mais la vocation du peuple juif, c'est d'être le témoin du don de la loi, des 10 commandements et du Dieu vivant, du Dieu révélé dans l'Ancien Testament, de la loi morale et de ce sacerdoce d'intercession, de prière, etc., pour les nations. Donc ça demeure, et c'est une des choses qui a valu d'ailleurs aussi des persécutions, évidemment, au peuple d'Israël.
Alors peut-être, Mark Kinzer, rapidement, puisque hélas, donc on est obligé de traduire, est-ce que dans votre ouvrage, à un moment, et je ne retrouve pas le passage, vous dites l'antisémitisme, je pense qu'on peut dire ça,
oui,
qui avait cours chez un certain nombre de catholiques avant-guerre.
Mais là, l'antisémitisme en général, c'est quand il y a une dimension plus raciale. Mais ce qu'il y avait surtout chez les catholiques, alors ça souvent l'un a préparé l'autre, mais c'était un anti-judaïsme religieux, c'est-à-dire l'idée d'un rejet d'Israël. C'était surtout ça. Alors chez certains, ça a glissé vers l'antisémitisme racial.
En tout cas, on peut imaginer, vous, compte tenu de votre judaïté, je ne sais pas si on dit ça comme ça, que vous êtes particulièrement sensible ou attaché à cette vocation qui demeure, cette élection qui demeure quant au peuple juif. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, ou qu'est-ce que vous diriez aux catholiques de l'importance de prendre conscience de cette élection qui demeure?
How would you define
Comment est-ce que vous expliqueriez
the remaining election of Israel.
De l'élection qui demeure en fait sur les Juifs.
All the Jews, not only the believers.
Well, I think that there is it is important that there be a people, a flesh and blood people that carry on from one generation to the next.
Qui transmettent de génération en génération.
This life of the Jewish people.
La vie des Juifs.
And I think sometimes within the life of the church, there is this separation between flesh and spirit.
Parfois, body dans la vie de l'Église, soul. Il y a une certaine séparation de ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les Juifs auraient vocation particulièrement à manifester
de rappeler
charnelle,
la
cette
dimension
élection.
Charnelle de l'incarnation. Et c'est quand même, Jésus est venu à travers la chair juive. Hein, Saint Paul nous dit que de qui dont Jésus est issu selon la chair.
Then Jesus becomes like simply an idea.
Sinon, pas simplement une idée.
Voilà, il devient
disincarnate.
Et désincarné en quelque sorte.
Alors, si on continue sur Nostra Aetate, il y a aussi autre chose dans Nostra Aetate, mais peut-être que vous compléterez mon propos, Père Jean-Miguel Garrigue. Là, pour le coup, c'est plus connu de tout à chacun, mais ça fait du bien de le redire. Il y a une expression qui dit « la passion ne peut être imputée à tous les Juifs ». C'est-à-dire que le Concile et Nostra Aetate, donc, a redit avec force qu'on ne peut pas rendre les Juifs responsables de la mort de Jésus. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement et quelles sont les
bonnes
expressions?
Alors, il y a des choses qui sont évidentes. C'est que il n'y a pas de responsabilité collective des Juifs dans la passion de Jésus. Collective dans le temps, bien sûr. Il n'y a pas non plus de responsabilité de tous les Juifs du temps de Jésus. Certains n'ont même pas su que Jésus était condamné. Et même si on pense aux responsables directs de la mort de Jésus, ceux qui l'ont condamné, qui l'ont livré aux Romains, c'est-à-dire le Sanhédrin de l'époque, les grands prêtres, Jésus est mort en disant « Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et Paul reprend cette même idée que s'ils avaient reconnu en lui le Messie, a fortiori la présence même de Dieu, le nom de Dieu fait chair, et jamais ils ne l'auraient tué, bien sûr. Donc il y a une grande part d'aveuglement et non pas de désir de s'opposer à Dieu.
Donc quelle est la bonne expression aujourd'hui? C'est que certains juifs ont livré Jésus qui a été tué par les Romains, c'est ça?
Oui, ça c'est ce que l'on peut voir historiquement. Certains juifs, et encore, dans quelle mesure étaient-ils conscients de faire quelque chose de mauvais? Ils pouvaient croire qu'ils faisaient quelque chose qui préservait la loi, qui préservait le temple. S'il y a du mal, c'est une certaine banalité du mal, où on fait le mal en croyant faire le bien, même d'une certaine manière. Vous voyez, c'est quelque chose de très fréquent. On veut défendre quelque chose que l'on estime bon, et parfois, ça vous aveugle.
Alors, il y a un autre texte dans lequel vous faites, auquel vous faites écho, Mark Kinzer, dans votre ouvrage, c'est Lumen Gentium. Voilà, vous nous direz peut-être quel est le statut de ce texte. C'est quoi cette...
Alors, Lumen Gentium, c'est la grande constitution dogmatique du Concile sur l'Église.
Voilà.
Donc... Tout à l'heure, Nostra Aetate, on parlait de Nostra Aetate, c'est un décret sur les religions non chrétiennes. Mais le Lumen Gentium, alors là, c'est sur l'Église elle-même.
Alors, d'une certaine manière, Lumen Gentium, si je le dis de manière triviale, pardon, mais c'est comme une définition, en fait, de ce qu'est l'Église elle-même. Et il est dit que c'est comme un nouvel Israël. Alors, vous en parlez assez largement dans votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, c'est, enfin, le but du jeu, c'est de prendre, de piquer comme ça des choses, oui, qui peuvent éclairer les auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est un nouvel Israël, fort de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que, tout en considérant qu'il y a à la fois comme un renouvellement, une transformation, et en même temps pas de rupture.
Alors, vous savez que la nouveauté dans la Bible concerne les réalités dernières. Et nouveau, ce qui est dernier, d'ailleurs en grec et en latin, je ne sais pas ce qu'il est ce qu'on est en hébreu, mais en grec, en latin, novus ou eschatos veut dire à la fois nouveau et dernier. Donc, nouveau, ce qui touche à la fin, ce qui touche à la réalité ultime. Donc, le nouvel Israël, c'est l'Israël qui entre dans l'âge messianique et qui, par le Messie, va entrer même dans l'âge à venir.
Alors, attendez, qu'est-ce que ça veut dire là? Mettez-vous à la place des auditeurs. Pour
ça veut dire entrer dans quelque chose qui renouvelle profondément la relation avec Dieu, puisque le Messie est là et qui nous introduit ultimement dans la vie de la résurrection après. Hein, donc c'est ça qui est nouveau.
Mais quand on dit nouvel Israël, on a l'impression souvent que c'est comme c'est comme une expression et pas plus en fait. C'est comme une image d'une certaine manière.
Je crois que souvent, dans les oreilles chrétiennes, c'est entendu dans le sens de la substitution. C'est-à-dire que c'est un nouvel... Mais ce n'est pas le sens du Concile, hein, ce n'est pas le sens de Lumen Gentium. Mais c'est entendu encore... comme étant le nouvel Israël, parce que l'ancien ne sert plus, d'une certaine manière. Vous comprenez? Et ça, c'est une conception qui est fausse.
Présence à Millau 106.5. Vivant.
Ce matin, donc, cette émission sur les Juifs messianiques. Qui sont les Juifs messianiques? Et puis, si par hasard vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec Mark Kinzer, qui est rabbin, membre d'une communauté juive messianique aux États-Unis, dans le Michigan, théologien de renommée internationale, et qui est donc de passage ici à Toulouse à l'occasion d'une tournée en France pour autour de son livre « Scrutant son propre mystère » aux éditions Paroles et Silence. Et nous sommes aussi avec le père Jean-Miguel Garrigue, dominicain du couvent de Toulouse et théologien. Et je le dis à nos auditeurs, parce qu'on s'en rend pas toujours compte, mais on a de la chance, pour ceux qui ont une oreille avertie, de la profondeur et de l'importance de ce dialogue. Il y a de fait un groupe qui justement dit l'importance de ce dialogue, qui a longtemps existé dans l'Église catholique, qui était un petit peu secret, autour du cardinal Cottier, que vous connaissez, que vous avez bien connu, père Jean-Miguel Garry, qui était donc l'ancien théologien de la maison pontificale, qui est décédé il y a quoi, un an ou deux, c'est ça?
Un an, oui, un an, plus d'un an.
On a fait une émission d'ailleurs avec vous sur lui. Et donc ce groupe, qui était un petit peu secret hein, d'une certaine manière, s'appelait donc groupe de dialogue entre catholiques romains et juifs messianiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce groupe et puis de ce qu'il est devenu?
Alors, il a été secret au tout début, ensuite il a été discret. Et maintenant il est devenu public puisqu'il a rempli sa mission, qui était celle d'un groupe exploratoire de part et d'autre. Car nous ne connaissions pas, les catholiques ne connaissaient pas les juifs messianiques, et les juifs messianiques connaissaient très mal les catholiques. Marc est une exception, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, il fallait explorer et se connaître. On a fait ce travail pendant 16 ans.
Combien de personnes dans ce groupe?
Alors, nous étions... How many were we?
Combien étions-nous?
At the beginning and 16.
16 au début.
8 catholiques.
À peu près
8 catholiques. 8 juifs messianiques.
8 catholiques, 8 juifs messianiques. Donc, ça a été, vous comprenez, on se réunissait une fois à Jérusalem, une fois à Rome, hein, c'est symbolique. Et il y a des liens d'amitié qui se sont créés hein, au fil des années. Ça, c'est un long travail de préparation. Donc maintenant, on est arrivé, ce groupe a accompli sa tâche, puisqu'on a pu. Mettre en contact directement les juifs messianiques, les membres messianiques de notre groupe avec le secrétariat, le conseil plutôt maintenant pour l'unité des chrétiens dans sa section sur le judaïsme.
Pourquoi cette discrétion? Peut-être faut-il le rappeler.
Discrétion parce que il y a parallèlement les relations que l'Église entretient avec la grande communauté juive qui n'est pas croyante en Jésus. Et donc, il fallait que ça n'apparaisse pas comme une sorte d'opération missionnaire de l'Église, essayant en quelque sorte, par une sorte d'uniatisme, vous voyez l'uniatisme qu'on a fait avec les orthodoxes, d'avoir des catholiques de rite oriental, etc., un peu comme une sorte de sous-marin, si vous voulez, chrétien dans le judaïsme, ce qui serait mal comprendre ce cheminement. Alors, ça a laissé aussi du temps pour que les juifs messianiques aussi fassent aussi leur chemin, en tout cas ceux d'entre eux qui sont très attachés à leur appartenance à la communauté juive, fassent leur chemin aussi par rapport à la communauté juive et qu'ils soient peut-être moins mal reçus qu'ils ne l'ont été reçus au début.
Mark Kinzer, dans votre ouvrage, vous dites que souvent les juifs messianiques seraient assez méfiants à l'égard de l'Église catholique, mais que quand on leur parle, quand vous leur parliez de ce groupe de dialogue entre catholiques romains et juifs messianiques, il y avait un changement radical de regard en fait sur l'Église catholique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot peut-être?
Yes, you said in your book that
the
Messianic Jews are generally rather reluctant
que les Juifs messianiques sont plutôt.
But when you spoke about
mal à l'aise avec l'Église catholique, quand vous parlez de ce groupe,
you could see that was a change.
Voyez un changement.
Yes, in over the last 10 years, I've seen a major change among many. Messianic Jews.
Ces 10 dernières années, j'ai vu un changement important chez les juifs messianiques.
A much more open attitude towards Catholics.
Une attitude beaucoup plus ouverte à l'égard des catholiques.
Particularly as they heard about the dialogue. In the last 2 years, I was presenting on this dialogue at a major Messianic Jewish conference in the United States.
Ces deux dernières années, peut-être vous pouvez traduire.
Il a eu l'occasion de présenter le dialogue avec les catholiques dans des rassemblements importants de juifs messianiques.
Alors, il y a deux dernières choses dont je voulais parler avec vous avant que l'émission se conclue et qu'on rappelle, on redonne toutes les informations pratiques pour la conférence de ce soir. C'est l'importance de ce dialogue. J'aimerais que vous mettiez en perspective même, entre guillemets, ce qui se passe là, sur ce plateau, puisque si j'ai bien compris, et je crois que vous en parlez dans votre livre, Mark Kinzer, en fait, il y a dans la foi, pour les chrétiens, une dimension un peu eschatologique. Alors vous avez expliqué ce que c'est que l'eschatologie par Jean-Miguel Garrigue, à ce dialogue entre catholiques, enfin entre chrétiens, entre juifs, et donc aussi avec les juifs messianiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, par Jean-Miguel Garrigue? Ça veut dire quoi, une dimension eschatologique de ce dialogue?
Ça veut dire que ça touche à des réalités de l'avenir et de l'avenir ultime. C'est-à-dire ce vers l'aboutissement du dessein de Dieu sur l'humanité, qui est la vie, la résurrection, la vie éternelle, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment à la fois nous est caché. Nous ne savons pas le comment, mais en même temps, c'est promis. Nous savons que tout cela s'accomplira.
Et que donc, il est dit donc que quand chrétiens et juifs en fait travaillent à se rapprocher, c'est ça?
Oui.
Ils hâtent d'une certaine manière le retour du Christ.
Parce que saint Paul dit que quand les juifs avant la fin reconnaîtront Jésus et qu'ainsi la plénitude du dessein de Dieu s'accomplira pour les juifs et pour les gentils. Donc l'illumination des Juifs fait partie du dessein de Dieu. Et c'est pour ça que quand le premier groupe de Juifs messianiques a été à Rome et a rencontré le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque préfet de la Congrégation des religieux, ils lui ont expliqué ce qu'ils essayaient de vivre et d'être. Et ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on est pour vous, catholiques ? Et il leur a dit, il leur a répondu, si vous êtes bien ce que vous dites être, vous êtes pour nous un signe eschatologique, c'est-à-dire un signe de la fin des temps, mais non pas dans son aspect apocalyptique, mais aussi dans son aspect d'accomplissement du dessein de Dieu.
Alors, j'avais lu aussi qu'en fait, jamais dans l'histoire, il y aurait eu autant de juifs dits illuminés. Qu'est-ce que vous pouvez dire l'un et l'autre de ça? Est-ce que c'est une réalité? Et c'est pareil, qu'est-ce que ça dit d'une certaine manière?
Yes, I think that this what we've seen in the last 50 years is been the most dramatic opening to Jesus among Jews in history.
Je pense que ce que nous avons vu, c'est ça, ces 50 dernières années, c'est qu'il n'y a jamais eu, en fait...
Quelque chose d'aussi impressionnant comme ouverture de foi à Jésus. Et moi, personnellement, je le rattacherais aussi à une évolution que l'on voit dans le judaïsme, général.
Oui, hein. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça concerne que les juifs messianiques ou est-ce que les juifs, en général, s'interrogent sur la personne de Jésus?
Mais oui, c'est-à-dire qu'ils la connaissent. C'est-à-dire que rendez-vous compte que pendant des siècles, le mot Jésus était interdit dans la bouche d'un juif. Parce que c'était même dangereux dans nos pays de chrétienté, comme aujourd'hui le mot Mahomet est interdit dans la bouche d'un catholique au Pakistan, parce qu'il peut être accusé de blasphème. Le juif qui parlait de Jésus était suspecté de blasphème, et donc pouvait être persécuté. Donc il y avait eu un refoulement, de la figure de Jésus dans le judaïsme, et ce qui est très frappant, c'est que depuis les actes de repentance, d'abord des églises protestantes, car elles ont été les premières dans les années 40, 50, puis de l'église catholique avec Jean-Paul II, il y a comme une sorte, Jésus n'est plus interdit, et donc les juifs s'intéressent à Jésus, des rabbins, écoutez, ici même C'est extraordinaire. À Toulouse, on a pu se rencontrer avec les rabbins dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes. Et on a pris comme thème qu'est-ce que c'est que la sainteté. Et les rabbins ont parlé de ce qu'était la sainteté pour un juif. Et ils nous ont fait parler, nous, dominicains, de ce qu'était la sainteté pour les chrétiens. Et ils étaient très intéressés. Donc, rendez compte, la possibilité maintenant de parler de questions religieuses avec des rabbins. Ça indique qu'il y a un changement extraordinaire. Et je crois qu'il faut situer les choses dans toute cette perspective. C'est pas seulement, il y a les juifs messianiques qui ont un rôle certainement prophétique quand ils vivent en profondeur leur vocation, mais il y a aussi tout ce qui se passe chez les chrétiens et chez les juifs en général.
Marc Kinzer, vous avez un commentaire sur ce que vient de dire le père Jean-Miguel Garrigue?
Could you understand what I said?
Yes, I think so. If
there is a renewal of...
Yes,
of,
very, very much so. There is much greater interest in Jesus.
Il y a un intérêt grandissant chez les Juifs.
And also in the New Testament as a whole.
Et aussi pour le Nouveau Testament.
There has been a kind of explosion of Jewish scholarship on the New Testament.
Il y a eu une explosion d'études juives sur le Nouveau Testament.
Voilà, et ben merci beaucoup à nos invités d'être venus ce matin nous parler des juifs messianiques. On a beaucoup de chance et on vous remercie vraiment chaleureusement. Je rappelle donc plusieurs choses. Donc le titre de l'ouvrage de Marc Kinzer, qui est quand même un ouvrage, on va dire, intello, hein, faut pas en faire mystère, mais qui est, pour ceux qui se sentent prêts, fort intéressant, « Scrutant son propre mystère, Nostra Aetate, le peuple juif et l'identité de l'Église », préfacé, il faut le dire, par le cardinal Schönborn, qui est donc le cardinal archevêque de Vienne, qui maintenant est le responsable donc de ce groupe de dialogue avec les juifs messianiques, paru aux éditions Parole et Silence. Et ce soir, donc, la conférence de Marc Kinzer a lieu chez les Dominicains, à 20h30, salle Albert-le-Grand. Ce soir, chez les Dominicains, à Toulouse, 20h30, salle Albert-le-Grand. Marc Kinzer qui après poursuivra sa tournée en France, à Lyon, et entre autres, la semaine prochaine, à Paris, au Bernardin. Merci beaucoup à nos invités d'être venus ce matin nous parler des juifs messianiques et nous donner ces motifs d'espérance que le retour du Christ est plus que jamais pour bientôt. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.